Chapitre 4. Une sorte de grand oiseau sans bec. Quand Ervaël revint à lui, il se prit la tête à deux mains. Une horrible migraine lui martelait le cerveau. Que s'était-il passé? Les souvenirs se remirent lentement en place dans sa mémoire. Léna avait pris des risques incroyables pour lui. Il se rappelait maintenant avec quelle violence Draco avait écarté sa fille de son chemin. On aurait dit qu'il cherchait à la tuer. Où était-elle maintenant? C'est seulement après s'être posé cette question qu'il s'intéressa à son propre sort. Il était enfermé dans une cage faite de métal et de bois, elle-même posée sur une chaloupe. Le fragile radeau était relié au vaisseau amiral par une simple corde qui l'entraînait dans son sillage. Il leva le nez et aperçut l'homme aux jambes de fer qui l'observait de sa cabine. Il sentit alors une boule de colère grossir dans sa gorge.
« Qu'avez-vous fait de Léna ?»«
Léna, je l'ai mise au cachot dans les tréfonds du bateau. Elle est avec les rats. C'est ainsi que je traite les gens qui me trahissent. »«
Mais c'est votre fille !»
Draco eut une grimace de dégoût.
« Je n'ai plus de fille. Léna n'est plus digne d'appartenir à la noble famille des chasseurs de dragons. »
Ervaël comprit qu'il n'arriverait pas à le faire changer d'avis. Pauvre Léna, à cause de lui, elle avait tout perdu.
Vous êtes un monstre, Draco.
L'homme aux jambes de fer ricana. Ervaël essaya de soulever sa cage, mais il ne réussit qu'à faire tanguer la chaloupe. Il perdit l'équilibre et tomba à la renverse en crachant une courte flamme.
Regarde comme tu es bateau, un vrai marin d'eau douce.
Quand je sortirai d'ici, je vous montrerai qui de nous deux est le plus puissant. Et je vengerai par la même occasion tous les dragons que vous avez massacrés au cours de votre vie.
Draco accueillit les menaces de son prisonnier avec mépris.
Jamais tu ne retrouveras la liberté. J'ai oublié de te préciser certaines choses. N'essaie pas de brûler la cage avec tes flammèches d'enfant. Tu ne réussirais même pas à la noircir. Elle est faite d'un matériau spécial, très rare, très dur, qu'on appelle le bois de plomb. Il a la particularité de ne pas brûler. Il faudrait le plonger dans un volcan pour qu'il se consume.
Ervaël se releva avec des gestes rageurs et concentra son feu sur un barreau de la cage. L'homme aux jambes de fer avait raison. Il ne se passa rien.
N'essaie pas davantage de te transformer en roi dragon!
Reprit Draco.
La barque qui te supporte coulerait instantanément sous ton poids, et tu disparaîtrais à jamais, oublié de tous. Tu es piégé!
Ervaël baissa la tête, découragé. L'homme aux jambes de fer avait tout prévu.
Voilà, tu as enfin compris que, pour toi, le voyage était sans retour.
Quelques jours passèrent, aussi longs que des années. Ervaël avait l'impression que le temps s'était arrêté. Les idées qui tournaient en boucle dans la tête du roi dragon, redevenu enfant, étaient aussi noires que la nuit. Le monde d'Organ se rapprochait inexorablement. Là-bas, les hommes allaient le juger et le condamner à mort. Alors, puisqu'il n'y avait plus d'espoir, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas en finir tout de suite? Pourquoi ne pas s'échapper dans la mort? Il lui suffisait de reprendre son apparence de dragon. Il coulerait comme une pierre et rejoindrait son père.
Nocturne, guide-moi vers toi.
Soudain, une ombre passa au-dessus de lui sans un bruit. Une mouette? Un goéland? Non, ces oiseaux n'avaient pas la réputation d'être silencieux. Le garde qui le surveillait nuit et jour dans la vigie du navire décolla brusquement de son poste d'observation et se retrouva à l'eau sans même avoir eu le temps de crier. Puis la forme noire qu'il avait précipitée dans la mer vint se poser avec précaution sur la chaloupe d'Ervaël. C'était une sorte de grand oiseau sans bec. Ervaël était si faible qu'il mit plusieurs secondes à reconnaître Urana, Le petit dragon avait enduit son corps d'une couche de charbon que l'on trouvait en abondance dans les entrailles de braise. Son camouflage le rendait invisible dans l'obscurité. Le prisonnier ouvrit la bouche pour prononcer son nom.
Chut, ne dis rien, mon roi. Je t'ai enfin retrouvé. Isilde et les jumeaux ne vont pas tarder. Nous avons écumé l'océan à ta recherche, brûlant tous les bateaux que nous avons attrapés. Et te voilà enfin. J'ai l'impression que j'arrive juste à temps. Tu es bien mal en point.
Un murmure lui répondit.
Comme je suis heureux de te revoir, Urana.
Ervael expliqua ensuite au petit dragon qu'il ne devait pas essayer de brûler la cage.
Je crois que j'ai une idée.
Chuchota Urana. Le dragonneau commença à brûler la corde qui reliait la chaloupe au vaisseau amiral. Le radeau se mit à dériver, s'éloignant doucement du bateau. Quand la belle Isilde et les jumeaux les rejoignirent enfin, le navire avait disparu, mangé par la nuit. Urana leur exposa son plan. Ils ne furent pas trop de quatre pour l'exécuter. Incendie et brasier agrippèrent le haut de la prison flottante et la soulevèrent de plusieurs mètres. Isilde et Urana vinrent se placer juste en dessous. La dragonne éventra la coque d'un coup de griffe. Ervael atterrit en douceur sur le dos du dragonneau qui le réceptionna sans difficulté. Le roi dragon, sous son apparence humaine, ne pesait pas lourd. Avant de prendre de la vitesse, Urana s'assura que son passager était bien calé.
« Maintenant, occupons-nous du vaisseau amiral !»
ordonna la reine. Les jumeaux lâchèrent leur fardeau qui coula aussitôt. Dans le noir, leurs yeux jaunes crépitaient comme des torches.
« Maudit soit, les chasseurs de dragons !»